Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette table ronde intitulée « Modéliser et créer des mondes » qui va nous permettre de voyager dans des planètes. Nous sommes plusieurs parmi vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup et j'en fais partie. Nous sommes plusieurs à regretter de ne pas avoir eu de voyage humain sur des planètes à la suite de l'exploration de la Lune, de l'homme sur la Lune et des missions Apollo. Nous en avons discuté dans différentes tables rondes. Et aujourd'hui, on y va quand même. On y va quand même parce que l'exploration spatiale s'est poursuivie. Elle a atteint maintenant un rythme de croisière tout à fait raisonnable. Elle nous rapporte des connaissances, des images, mais surtout des connaissances. Et nous sommes en plus dans une période d'expansion des techniques numériques et informatiques. Et tout ça nous permet aujourd'hui de faire de la réalité virtuelle sur les planètes. Donc, nous n'y sommes pas, mais nous avons rapporté des planètes suffisamment de données pour ramener ces planètes sur Terre, les mettre dans des ordinateurs et nous permettre d'y voyager. Alors cette table ronde, du coup, nous allons l'articuler autour d'un outil que vous avez peut-être visité, qui se trouve là-bas, qui s'appelle Virtual Reality Planet et qui vous permet de voyager à la surface de Mars. Alors pour discuter de ça, nous avons le laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes qui est venu en force avec François Civet tout de suite à côté de moi, Olivier Grasset tout au bout et Stéphane Moëlic ici qui sont tous les trois planétologues de ce laboratoire. Nous avons avec nous aussi Pierre Bordage, vous l'avez tous reconnu, auteur d'une quarantaine d'ouvrages et ancien président des Utopiales. Et nous avons Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue. Nous verrons ce que la paléontologie fait sur les planètes. Qui est paléontologue au Centre de recherche sur la paléodiversité et les paléo-environnements du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et en fait, Pierre Bordage et Jean-Sébastien Steyer, vous êtes co-auteur avec Roland Lehoucq et Jean-Paul Demoule d'un ouvrage qui s'appelle Exquise Planète. Et c'est la raison pour laquelle nous parlerons aussi de modélisation dans cet ouvrage. Alors, allons sur Mars. Grâce à cet outil VRP2, vous m'expliquerez pourquoi vous avez mis un 2 ou un tout, peut-être pour aller vers, c'est ça, vers tout. Mars, c'est quand même une planète particulière hein, de notre système solaire. C'est d'abord la plus proche avec Vénus, mais Vénus se cache sous les nuages. Et Mars a reçu à peu près 11 orbiteurs, 3 atterrisseurs et 4 rovers. Et c'est avec ça qu'on a maintenant suffisamment d'images pour faire de la réalité virtuelle sur Mars. Alors Stéphane Lemoëlic, vous avez participé aux missions Mars Express et Curiosity. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre rôle et est-ce que ça vous a ramené plus précisément comme données ?
Alors, donc la mission Mars Express, c'est la première mission européenne qui est arrivée autour de Mars, donc une sonde qui est arrivée fin 2003. Moi, je m'intéresse principalement aux aspects imagerie, donc comment on peut faire pour déterminer, notamment à distance, la composition des sols martiens. Donc Mars Express est équipé de différents instruments, des caméras à très haute résolution, des caméras, c'était très innovant, c'est les Européens qui l'ont fait la première fois, une caméra stéréo couleur qui s'appelle HRSC, fabriquée par les Allemands, qui permet de faire des images de la surface, mais d'acquérir en même temps la topographie, donc l'altimétrie. Donc une caméra très performante et qui est associée à un spectromètre infrarouge, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une caméra qui permet de mesurer les propriétés de la lumière émise par la surface et qui permet de déterminer quels sont les minéraux qui sont présents. sachant que trouver un minéral plutôt qu'un autre, ça nous raconte une histoire, ça nous donne des indices sur le passé climatique de la planète. Est-ce qu'il y avait de l'eau, pas de l'eau? Est-ce qu'il faisait froid, chaud? Est-ce que c'était humide ou sec? Donc voilà pour Mars Express. Et Curiosity, c'est une autre mission spatiale qui, elle, est arrivée en août 2012, où là, on n'est pas en orbite autour de la planète, mais on est sur la planète. Donc Curiosity a atterri dans un grand cratère qui fait 150 km de diamètre. C'est un robot qui fait 850 kg, qui est alimenté au plutonium, 2 mètres de haut, la taille d'une voiture. Donc c'est une des missions spatiales les plus ambitieuses que la NASA ait faites. Et effectivement, la France est présente aussi dans cette mission, puisque un laboratoire à Toulouse a fabriqué l'un des instruments. Il y a deux instruments sur Curiosity qui ont été faits par des Français. Et donc, on a la chance de faire partie de l'équipe scientifique de Curiosity. C'est une équipe internationale, hein. Il y a beaucoup d'Américains, mais aussi des Espagnols, des Français, des Anglais, des Russes. Et ce robot essaye de trouver si l'environnement de Mars a été, oui ou non, propice à l'émergence de la vie par le passé.
Et Curiosity, c'est le robot qui a parcouru le plus de chemin sur Mars, c'est ça?
Alors non, Curiosity n'est pas celui qui a fait le plus de chemin. Le robot qui a fait la plus longue traversée, c'est Opportunity, un robot américain, lui aussi, qui est arrivé en 2004. Donc la NASA avait envoyé deux robots, Spirit et Opportunity, en 2004. Opportunity marche encore, enfin il marche, je voudrais dire, il roule encore, et il a effectivement fait plus de 42 km, il a dépassé un marathon à la surface de Mars. Curiosity, on est rendu à peu près à 12 km en 3 ans, et il faut savoir qu'on ne fait pas une course. L'équipe scientifique de Curiosity, c'est à peu près 450 personnes, il y a beaucoup de géologues. Alors vous mettez 400 géologues autour d'un caillou, vous imaginez bien, on peut passer 3 semaines autour du caillou parce que ce caillou est extraordinaire. Il y a des grains comme ça, des strates comme ça. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est pas d'aller le plus vite possible, le plus loin possible. C'est de faire un maximum de science. Et donc, effectivement, ça prend du temps. L'autre élément, c'est qu'on peut pas, pour ceux qui ont vu le film Seul sur Mars ou qui ont lu le livre Seul sur Mars, ou ceux qui l'ont pas encore vu, vous le découvrirez, on peut pas piloter en direct un rover qui est à la surface de Mars parce que Mars est trop loin de la Terre. Il faut, à la vitesse de la lumière, au moins 4 minutes pour envoyer une information sur Mars et au moins 4 minutes pour avoir un retour. Donc, le pilotage se fait de manière entièrement autonome, entièrement automatique. Et en moyenne, on fait 40-50 mètres par jour. Les bons jours, le record, ça doit être 140 mètres fait en une journée.
Alors, quand vous travaillez, Pierre Bordage, sur un roman, quand vous laissez partir votre imaginaire et vous racontez des histoires, ça vous aiderait de connaître la surface d'une planète et de jouer avec ce type d'outil VR tout planète?
Je n'ai jamais utilisé pour l'instant. La seule planète où j'ai travaillé dur parce qu'on m'avait imposé toutes les caractéristiques, c'est pour l'exquise planète, celle de Roland Lehout, qui avait posé les caractéristiques du monde. Évidemment, c'est pas trop ce qui m'intéresse, même si évidemment ça a une incidence sur les histoires qui se passent sur les planètes. Ce qui m'intéresse, c'est comment les humains vont s'adapter à ce monde. Donc là, tous les éléments climatiques, gravitationnels, etc. d'une planète vont m'intéresser. Au début, je faisais pas trop attention à ça, j'ai aucune culture scientifique, ou alors très peu. Et sur mon premier space opéra, Il y a du silence, il y a Pierre Michaud, mon éditeur, qui m'avait écrit à la marge de mon manuscrit en disant: Pierre, ceci n'est pas possible parce que telle et telle et telle raison. Oui, je me dis, mais c'est super beau. Oui, il me dit, c'est pas possible. Oui, mais c'est beau, mais c'est pas possible. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'au moins, je devais respecter des notions scientifiques de base sur la gravité, sur toutes ces choses-là, pour pouvoir donner de la crédibilité à l'œuvre et pouvoir ensuite développer l'imaginaire. D'être aussi pointu dans des notions que Marc vient d'indiquer, je pense pas forcément nécessaire. Tout ce qui m'intéresse, c'est les orbites, c'est l'orbite elliptique créée par, par exemple, Roland dans Exis Planet, les soulèvements que ça peut et donc l'adaptation d'une civilisation humaine à un monde complètement nouveau et différent.
Alors, VR tout planète, François Civet, vous êtes lancé dans le projet avec l'équipe du LPG. Comment vous vous y êtes pris et puis à quoi ça vous sert?
Alors, moi, je suis arrivé, ça fait 3 ans que je suis arrivé à Nantes maintenant. Quand je suis arrivé, Stéphane Lemoyic à côté de moi venait d'acheter le premier Oculus Rift DK1 et se demandait déjà comment il pourrait intégrer les données de Mars dans l'Oculus Rift pour s'immerger d'une façon un peu différente de celle dont il avait l'habitude. Faut savoir que aujourd'hui, la seule façon de regarder les données de planétologie, c'est sur un écran 2D, éventuellement en faisant un peu de 3D avec des logiciels professionnels qui sont quand même pas forcément faits pour ça. Donc l'idée, c'était de s'immerger totalement dans les données de planétologie. Et pour ça, on a utilisé les technologies du jeu vidéo. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient aujourd'hui, avec l'émergence des nouvelles technologies informatiques qui nous permettent de mettre énormément de données dans les ordinateurs, avec des ordinateurs de plus en plus puissants, ça nous a permis en fait, de construire un jeu vidéo autour des... Enfin, un jeu vidéo, c'est un grand mot, mais une application, on va dire, une application de visualisation et de rendu immersif des données de planétologie. Et donc, c'est ça qui nous a motivés. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors, au début, c'était... Des tout sautements vers la réalité virtuelle. Au début, on avait une feuille de papier calque posée derrière une vitre et on projetait par derrière avec un vidéoprojecteur. Et puis, petit à petit, on a développé notre application et aujourd'hui, on en est rendu à l'application qui est présentée vers tout planète, vers tout Mars. Et donc, pour ceux qui sont venus nous voir, l'immersion est plutôt pas mal.
Alors, on vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est pas pour un usage grand public, mais ça le fait hein, quand même.
Alors, nous, on voulait cette application, on voulait au début qu'elle soit uniquement pour les scientifiques. On voulait pouvoir immerger les scientifiques dans leurs données, qu'ils voient...
C'est pas pour jouer à Seul sur Mars.
C'est pas pour jouer à Seul sur Mars. Donc, on a intégré divers outils de traitement... En tout cas, d'interaction avec le monde virtuel pour pouvoir prendre des mesures sur le terrain, des mesures de coordonnées, des mesures d'altitude, des mesures de pendage. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que cet outil, en fait, il était à la fois scientifique et puis vraiment, il y avait une portée éducative très importante puisque on était capable d'emmener plusieurs personnes en même temps dans les données et puis de les immerger totalement dans le monde martien. Et en plus, donc avec une manette de jeu vidéo, donc ce qui nous permet d'être dans un environnement avec des déplacements extrêmement fluides. Et puis ça a beaucoup plu aux enfants des personnes du laboratoire quand ils sont venus tester. Et puis c'est parti comme ça. Et en fait, maintenant on fait des expositions. Donc on était présent il y a un mois pour l'exposition Voyage planétaire qui était organisée par notre laboratoire. On a amené la cave pour la première fois, on l'a présentée au public et ça a été un succès total. On était très, très heureux de voir les gens repartir avec le sourire aux lèvres et des yeux écarquillés parce qu'on les avait emmenés sur Mars. Et donc on revient aujourd'hui parce qu'on nous a invités très généreusement.
Alors Mars, c'est quand même une planète particulière du point de vue de l'imaginaire. On se projette beaucoup sur Mars, culturellement, énormément de livres de science-fiction ont été écrits sur Mars. On a aussi, les scientifiques ont beaucoup fantasmé, les scientifiques et les autres, sur l'éventualité de trouver de la vie sur Mars. On y est encore beaucoup en parlant de trouver de l'eau sur Mars. Ça fait rêver quand même, Mars. Est-ce que c'est lié au succès que vous avez rencontré ?
Je pense que Mars fait rêver depuis bien longtemps pour des raisons, on va dire, presque historiques. Ce point rouge qui se balade dans le ciel a été repéré depuis l'Antiquité. C'est quelque chose qui fait rêver. Je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur au 19e siècle, avec l'affaire des canaux martiens, par exemple, ou avec les premiers télescopes. Certains astronomes ont pensé voir des traits rectilignes qui connectaient des régions sombres et des régions claires. Et là, on était à l'époque du percement des grands canaux, canal de Suez, canal de Panama. Et les scientifiques à l'époque imaginaient, on trouve ça dans les livres de Camille Flammarion, par exemple, un astronome qui était un grand vulgarisateur de l'astronomie. On trouve des descriptions incroyables de cette intelligence sur Mars qui a résolu le problème de l'irrigation en fabriquant des grands canaux, comme ça, à l'échelle de la planète. Ça a nourri l'imaginaire. Ensuite, avec les romans de H.G. Wells, c'est là où la science-fiction nous apporte souvent un soutien énorme pour créer un engouement pour cette exploration. Donc avec des romans comme les romans de Wells. Et puis après, on pourrait presque dire que Mars est peut-être devenue décevante. Puisque une des premières missions spatiales qui a réussi à aller jusque-là, c'est quand même compliqué, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup d'échecs aussi dans les missions martiennes, les premières images qu'on a vues, bah, ça ressemblait à une surface aride qui ressemblait à la Lune, avec des cratères partout. Quelque chose de beaucoup moins, finalement, idyllique et prometteur que ce que l'imaginaire collectif avait, pouvait nous promettre. Et ce que l'on voit maintenant avec le luxe de détails que l'on a avec Curiosity ou les sondes, c'est quelque chose que je trouve absolument magique, mais je parlerai, comme pour paraphraser certains astronautes, d'une magnifique désolation. Quelque part, on reçoit des images de Mars, au labo on en a tous les jours, on a un métier qui est sympa, hein. Le matin on regarde les mails, hop, ça y est, les dernières images de Mars. Mais il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un, j'avais l'espoir au début de voir un fossile de trilobite, on n'a pas trouvé. C'est une planète extrêmement aride. Donc on est dans l'imaginaire, on est dans la conquête d'un monde qui est un monde quand même très hostile. Donc voilà, mais c'est pas parce qu'il est hostile qu'on va pas y aller.
Jean-Sébastien Steyer, vous êtes un homme de terrain, vous allez fouiller en Afrique, dans des endroits reculés un peu partout, exotiques, sur la Terre. Ça vous plairait d'aller fouiller sur Mars pour trouver des fossiles ?
Je signe demain. Oui, oui. effectivement, je suis pas exobiologiste, mais je pense qu'on a plus de chances de trouver des martiens fossiles que des martiens vivants. Mars, effectivement, a toujours titillé l'imaginaire. Il faudrait voir en termes de bibliographie dans la science-fiction. Peut-être que finalement, le terme martien est apparu avant le terme extraterrestre. Bon, à vérifier, mais pour bien appuyer l'importance scientifique et imaginaire de la planète Mars. Pour revenir sur l'outil immersif, c'est un outil effectivement qui aide les scientifiques, ce qui n'empêche pas le côté aussi pédagogique, voire ludique. Mais je pense que si on pouvait disposer de cet outil-là pour les autres exoplanètes, si on peut, bien sûr, en fonction du type de données qui nous arrivent sur Terre, on pourrait mieux réfléchir à des formes de vie possibles en fonction de la géologie, on en a parlé déjà, en fonction des conditions planétologiques en général, du type de relief, du type de roche, de la géomorphologie, enfin de tous ces paramètres-là qui finalement influencent la vie. On voit bien sur Terre, quand on fait un petit peu de paléontologie, que le paysage et notamment la tectonique des plaques, quand il y en a une, alors c'est le cas sur Terre, c'est un certain type de tectonique de plaques qui est assez actif, assez rapide, mais la tectonique de plaques a joué sur l'évolution de la vie et peut-être que sur les autres planètes, les autres exoplanètes, le paysage en général, alors tectonique ou pas, mais influence aussi la vie possible.
Alors avant d'aller sur les exoplanètes, est-ce qu'il y aura une autre planète du système solaire qu'on sera capable assez rapidement de mettre dans votre logiciel de réalité virtuelle? C'est quoi la prochaine planète?
Alors, la prochaine planète, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Les planètes sur lesquelles on a des données pour construire des mondes virtuels, c'est Mars, parce que là, on a beaucoup de sondes. C'est bien évidemment la Lune. Là, maintenant, on a énormément de données sur la Lune. On peut reconstruire quasiment au moins ce qu'on a fait sur Mars, on peut le faire sur la Lune. Alors, on pourrait le faire aussi sur Terre, mais bon, sur Terre, d'autres s'en sont chargés pour nous. Et les prochaines planètes, alors, sur Mercure, on pourra peut-être faire quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs sondes qui sont allées sur Mercure. Il y a eu Messenger il y a peu de temps, là, qui a fini sa carrière il y a quelques mois. Normalement, il y a suffisamment de données avec Messenger pour pouvoir essayer de faire quelque chose.
Et moi, j'ajouterais que le travail n'est pas fini. Il est à peine commencé, il est à peine ébauché. L'ensemble des données que l'on a sur Mars, c'est avec les sondes américaines MRO, les sondes Mars Express et tout ça, c'est plusieurs dizaines de téraoctets de données. Donc intégrer tout ça dans un système complet, c'est un travail énorme qui va prendre des années. Intégrer ça dans un système de réalité virtuelle, c'est aussi un travail énorme. Je suis convaincu que ça se fera, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, on pourra effectivement chausser un casque de réalité virtuelle et refaire le trajet des robots là où on s'est posé. Il faut savoir que là où on ne s'est pas posé, on ne pourra pas recréer l'information, donc il faut évidemment renvoyer des salves de robots pour créer, si on veut vraiment être complet. Donc il y a un énorme travail à faire et on n'en est vraiment qu'au balbutiement, y compris pour Mars. Et effectivement, derrière la Lune, on a un potentiel, on a des images à 40 cm par pixel très détaillées à plein d'endroits. Donc on a un potentiel de faire quelque chose de pas mal qui pourrait permettre de revivre, pour ceux qui l'ont raté, comme moi, je suis né en 1972, éventuellement revivre un petit peu une partie de l'aventure des astronautes Apollo en se mettant aux commandes d'un vaisseau Apollo virtuel qui atterrirait sur la scène virtuelle, mais faite à partir des vraies données.
C'est quoi la prochaine planète du système solaire sur laquelle on va poser un engin, à part Mars ? Parce que bon.
Je ne sais pas ce qui va se passer à court terme dans le système solaire interne entre les projets Vénus et évidemment Mercure, mais a priori, si tout se passe comme prévu, 250 kg se posent sur la Lune Europa avant 2030, sur la contribution américaine. Mais à part ça, je ne vois pas de projet dans l'horizon à court terme sur un objet qui se pose, en dehors de Mars évidemment, où c'est de la routine.
Il y a la Lune. Enfin, c'est vrai qu'on
n'y pense
pas souvent, mais les Chinois, en ce moment, font énormément de progrès. Ils vont très vite. Et la Lune est pour eux un objectif vraiment prioritaire. Ils ont posé un petit robot à la surface de la Lune, là, il y a à peine un an. Personne ne l'avait fait avant depuis pratiquement 40 ans, après, à part les Américains et les Russes, dans les années 70. Là, les Chinois ont posé un petit robot à la surface de la Lune. Ils envisagent de recommencer, de ramener un échantillon lunaire. L'idée, c'est que si vous êtes capable de ramener un échantillon lunaire, ben, peut-être qu'un jour, vous êtes capable de ramener un homme, donc un taïkonaute, les astronautes chinois. Donc, sur la Lune, on a des chances, et c'est à 3 jours de voyage, on a des chances peut-être de voir quelque chose qui redémarre, comme ça, dans le cadre d'une espèce de compétition internationale entre les grandes puissances. Et sinon, c'est Mars. L'année prochaine, si tout va bien, il y a un démonstrateur qui devrait partir, européen, d'atterrissage européen. On n'est pas sûr si ça va se faire ou pas. En 2018, il y a un rover européen qui est prévu. En 2020, il y a un rover américain qui est prévu. Mais encore faut-il qu'ils arrivent en bon état de marche. Donc, ça reste toujours un énorme défi.
Olivier Grasset, vous préparez avec l'ESA une mission pour aller sur Ganymède, une lune de Jupiter. Enfin, est-ce qu'on ira ? Est-ce qu'on va se poser ou est-ce qu'on va rester en orbite ?
On va se crasher. fin de mission, hein, c'est normal. Fin de mission, quelle que soit la durée de la mission nominale puis étendue, la fin de mission sera de se crasher sur Ganymède. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire de la science du sol. Ça, c'est très clair. Je m'excuse, c'était quoi la question?
Donc le temps de mettre Ganymède dans la babasse pour aller faire de la réalité virtuelle, il nous faut encore quelques décennies.
Il faut d'abord les bons instruments, ce qui ne va pas être le cas de Juice, parce que je vérifiais bien auprès de mes collègues, mais évidemment pour faire de l'immersion 3D, il faut de l'imagerie stéréo. Et soit il y a une caméra dédiée, ce que disait Stéphane tout à l'heure, dans certaines missions, on a des caméras stéréo, donc chaque image est prise d'office en stéréo. Soit vous ne l'avez pas, et du coup, vous devez bénéficier de multiples passages pour reconstituer sur la même image, avec des angles de vue différents, l'imagerie stéréo. Donc ça, c'est ce qu'on fera avec Juice. Mais on va être obligé de le faire. On va être obligé de le faire tout simplement parce que si on veut regarder sous la surface, à l'intérieur de la Lune, dans la glace, on va le faire avec le radar. Et le radar, sa première image, c'est en fait son premier brouillage, on va dire, c'est la topographie. Donc, l'obligation scientifique est de reconstruire la topographie le long de la trace du satellite. Donc ça, on va le faire. Ce qui veut dire qu'on pourra faire de l'immersion pas partout, mais le long de la trace du satellite qui va être à 500 km d'altitude. Là, on pourra s'amuser, comme vous le voyez dans VR2 Planète, à faire l'étoile noire de la guerre des étoiles, puisqu'on aura le long track, on aura toute cette possibilité du 3D. Mais sorti de la trace, on pourra quasiment pas le faire. Et de toute façon, la vraie raison, elle n'est pas là, c'est que là, on parle de terabits de données, on ne les aura pas. On est à Jupiter, on est à Saturne, plus on est loin et plus on a du mal à renvoyer les données. Les antennes, elles ne changent pas. Une antenne de 3 mètres de diamètre, quand on est à Jupiter, elle peut renvoyer en bande X 1 gigabit par jour. 1 gigabit par jour. regardez ce que vous prend une image sur votre appareil photo standard ou même votre téléphone portable. Donc nous, notre devoir de scientifique, il n'est pas de mettre des antennes de 16 mètres, on n'y arrivera jamais. C'est plutôt dans la compression des données qu'on a des vrais challenges. Mais ça, c'est ce qui nous bloquera. On vous fera jamais, enfin en tout cas avec Juice, on n'a pas aujourd'hui la clé pour aller renvoyer depuis Jupiter les terabits de données nécessaires pour faire de l'imagerie à 50 cm par pixel en stéréo sur la totalité d'une surface d'une planète. On l'oublie, c'est tout, c'est même pas la peine.
Alors du coup, on est très loin des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors du système solaire cette fois. On va compter en quoi? En 50 ans 100 ans? Bon, peu importe, là n'est pas la question. En revanche, Jean-Sébastien et Pierre, vous vous êtes livrés à un exercice pour aller imaginer une exoplanète qui serait réelle, enfin proche de la réalité, avec des données scientifiques. Vous avez fait ça avec Roland Lehoucq et vous l'avez appelé Planète Exquise parce que c'est un exercice qui ressemble à celui auquel se livraient les surréalistes quand ils faisaient du cadavre exquis. C'est-à-dire chacun a écrit sa partie, puis l'a passé à l'autre pour qu'il le continue. Donc Roland a imaginé la formation d'une planète et Jean-Sébastien, vous avez imaginé l'apparition d'une vie sur cette planète.
Oui, c'est ça. Donc en fait, Roland, qui est à l'origine de l'idée d'ailleurs, a écrit un texte avec beaucoup de données factuelles sur cette planète imaginaire mais plausible en fonction de sa rotation autour de son étoile, de son diamètre, de sa révolution. Il m'a donné quelques données planétologiques de surface ou de subsurface et puis il m'a dit, tiens, démerde-toi avec ça, fais de la vie, imagine un foisonnement d'espèces extraterrestres, donc par définition, et puis c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis basé sur l'hypothèse communément admise, quelle est l'hypothèse en fait de la panspermie, en utilisant des impacts d'objets divers et variés, que ce soit comètes ou astéroïdes, pendant un certain nombre de millions d'années, comme un petit peu ce qui s'est passé sur Terre avant le Cambrien, donc on appelle ça le pré-Cambrien, mais et j'ai en fait imaginé cette planète ensemencée par des acides aminés qui viennent en fait de nuages moléculaires qu'on observe un petit peu partout dans la galaxie, notamment vers le centre. Il y a un nuage dont la masse est assez considérable, je crois que c'est plusieurs millions de fois celle du Soleil, qui contient des acides aminés. Et quand on sait que nous, en tant que eucaryotes, enfin, forme de vie composée de cellules à noyaux, toute la diversité des eucaryotes, elle est sur une base d'une vingtaine d'acides aminés. Donc ça laisse quelque part rêveur, et du coup le scientifique que je suis a pris sa plume, si je puis dire, et a imaginé une vie foisonnante avec des phénomènes d'extinction aussi, comme il s'est passé sur Terre plusieurs fois au cours des temps géologiques. Et puis j'ai donné la fin de ma copie. Alors j'ai imaginé aussi fortuitement l'apparition d'une espèce intelligente. Alors je dis bien fortuitement parce que l'intelligence n'est pas obligatoire dans l'évolution des espèces. Et puis j'ai passé ma copie, la fin de ma copie, à Jean-Paul Demoule, qui est proto-historien, qui, à partir de cette espèce bizarroïde extraterrestre intelligente, a imaginé une civilisation. Et on a passé le paquet, tout le manuscrit, à Pierre Bordage, qui en a fait un scénario, qui a rajouté du beau, justement, et de la poésie, et une rencontre avec les humains. Donc c'était assez intéressant, en tout cas pour moi, paléobiologiste, d'imaginer des formes de vie plausibles, imaginaires, mais plausibles, avec des contraintes en fait physiques.
Et là, Pierre, c'est là que ça commence à être intéressant pour vous. Une planète où il y a une intelligence et l'évolution d'une civilisation, là, vous êtes dans votre élément.
Oui, absolument. D'ailleurs, je les remercie d'avoir fait tout le boulot. Moi, je suis un gros paresseux de l'équipe. C'est-à-dire, j'arrive à la fin quand toutes les bases ont été posées. Et c'était un vrai plaisir d'apporter un regard humain sur ce monde, parce que je pense, tout à l'heure on disait que Mars faisait rêver, la Lune faisait rêver peut-être nos anciens, comme Lucien de Samosate, qui imaginait des aventures sur la Lune. Et ça permet de rêver ces exoplanètes, ça permet de créer des mondes un peu étranges, merveilleux finalement. Je pense que le Space Opera et le Planète Opera sont les refuges merveilleux de la science-fiction. C'est-à-dire que là où tout est possible, finalement. C'est un vrai plaisir parce que la contrainte posée par mes trois camarades d'écriture m'ont obligé à réfléchir de façon différente à ce que je fais d'habitude. D'habitude, ce sont les personnages qui me montrent le monde. Je travaille beaucoup avec les personnages en immersion, donc le monde est découvert par les yeux de mes personnages, donc je découvre le monde en même temps qu'eux. Parce que c'est toujours un regard subjectif, c'est ça qui manque peut-être dans le caillou dans l'espace. Bon, on n'a pas le regard subjectif, il existe pour lui-même, et ce qui lui donne vie finalement, ou lui donne le côté rêve, c'est le regard qu'on peut porter dessus. Donc j'ai dû me contraindre à quelque chose, et ça m'a beaucoup apporté parce que finalement j'aime bien l'exercice de la contrainte, et j'ai beaucoup aimé ce travail d'arriver en dernier, de tenir compte de tout ce qui avait été fait, d'essayer d'imaginer des choses, comment ça impacte la vie de Colomb. J'y ai ajouté de la philosophie, de la religion, parce que je pense que ça c'est inhérent à l'être humain, et comment tout ça pouvait évoluer, et aussi une rencontre finalement entre l'humain et l'extra-humain. Parce que extraterrestre, c'est un thème qui me pose problème, parce que sorti de la Terre, on n'est plus extraterrestre, donc je les appelle plutôt les extra-humains. Tout ça, ça m'a vraiment passionné, ça fait partie du boulot d'auteur de science-fiction, mais il y a une grande part de poésie effectivement, et c'est ce cadre-là m'a permis d'ajouter ma propre poésie, et vraiment c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, on devait peut-être en faire un autre, je ne sais pas si ça se fera un jour, j'aimerais beaucoup.
Il faut en reparler à l'éditeur,
ouais, c'est
et
ça.
À Roland.
Avec les mêmes auteurs
éventuellement avec les mêmes auteurs, et peut-être, enfin c'était une idée qu'on avait un petit peu comme ça dans le vague, mais en partant d'une géante gazeuse, pour changer un petit peu de modèle.
Ouais, d'ailleurs, il y a Simac qu'on avait parlé dans Demain les chiens, où il imagine des gens, des humains qui vont sur Jupiter, qui sont des droneurs avec des espèces d'engins qui leur permettent de survivre là-dedans.
Alors là, vous pourriez avoir des satellites comme Ganymède ou Europa qui seraient... habitable.
Si j'entends bien, c'est pas leur problème. Ils ont bien raison, parce que
on n'a pas de budget, on a un budget limité. Mais...
Exactement. Et puis s'ils arrivent à envoyer des droneurs dans les
charges.
Pardon.
Vous pouvez élaborer un cahier des charges.
Il y en a plein qui l'ont fait avant nous. Hein. Je peux vous dire que les bouquins de SF sur la vie et la colonisation entre guillemets, parce qu'on parlait de colonisation hier entre nous. La possibilité de se développer à l'intérieur des océans, sous la glace, d'Europa, Ganymède et ailleurs, ça a déjà été abondamment exploré, parfois de manière géniale, parfois de manière assez nulle. C'est vrai que c'est très loin de la réalité, où nous, on n'a pas les budgets limités et on n'est pas prêt d'y aller, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire que ça foisonne d'idées parfois excellentes sur le sujet, c'est sûr.
Alors on a encore un peu de temps, et je voudrais aborder une autre manière de simuler des mondes, d'inventer, de modéliser des mondes. C'est ce que vous avez fait, Jean-Sébastien Steyer, avec Marc Boulay. Vous avez, alors là, on revient sur Terre. Vous avez imaginé la Terre dans quelques millions d'années. Et vous avez imaginé les animaux qui y vivraient à ce moment-là. Et alors, comment vous pouvez imaginer de telles choses? Avec la théorie de l'évolution, comment vous y êtes pris?
Alors c'est une idée en fait qui vient du sculpteur Marc Boulay, et qui a travaillé avec un des pères de la biologie spéculative, Dougald Dixon, et l'idée est restée dans un coin de sa tête, et puis il m'a contacté pour me demander si je voulais bien effectivement lui donner le cahier des charges pour être cadré, comme parlait en fait Pierre Bordage, de cet exercice de création cadrée. Finalement, on a fait la même chose, mais en restant sur Terre et dans un futur probable, dans 10 millions d'années, avec ce sculpteur anatomiste, avec lequel, en fait, on a travaillé déjà ensemble dans le passé pour reconstruire des dinosaures ou autres espèces disparues. Et on s'est rendu compte que cette cette injection d'imagination dans les reconstitutions paléontologiques était nécessaire. Et donc, Marc s'est dit, tiens, pourquoi ne pas imaginer ce qui pourrait être. Alors, on utilise bien le conditionnel parce que l'évolution des espèces n'est pas modélisable. On parle de modélisation organique, c'est-à-dire d'utilisation de logiciels 3D. Alors, dans le cas de Marc Boulet, c'est ZBrush. Mais l'évolution des espèces est un phénomène tellement complexe qui fait intervenir tellement de paramètres qu'on ne peut guère le modéliser, surtout à plus de 10 millions d'années. À la rigueur, on peut voir un petit peu comment évolue une petite population de bactéries dans un milieu contrôlé en faisant varier des paramètres. On peut dire, bon, ben voilà, la colonie de bactéries en question va évoluer comme ça ou comme ça. Mais pour toutes les espèces vivantes actuelles, dans 10 millions d'années, on est dans la spéculation. On est dans la biologie spéculative.
Alors, restons dans la spéculation. Si Mars était terraformé, toujours Jean-Sébastien ou les planétologues distingués qui m'entourent, si Mars était terraformé, est-ce qu'on pourrait imaginer une évolution différente de la nôtre, enfin différente de celle qui a eu lieu sur la Terre, sur Mars, et quels êtres pourraient apparaître?
Là, je vais être très court. Après, je laisse la parole aux autres. Mais si Mars est terraformé, de toute façon, ça ne sera pas du tout la même évolution que celle que vous avez sur Terre à cause d'un élément crucial qui est la tectonique des plaques, qui a existé sur Terre, qui n'a aucune raison d'aller se mettre sur Mars, à ce que j'en sais, et qui a été un élément, on le comprend aujourd'hui, de plus en plus crucial, non pas dans l'apparition, mais dans l'évolution de la vie, dans ces depuis que la tectonique des plaques est apparue. Ce qui d'ailleurs pose un souci, c'est de savoir à quel moment elle est apparue et comment. Mais ce qui est sûr, c'est que le couplage entre l'évolution de la vie et de la tectonique des plaques est un élément crucial de l'histoire de la Terre que vous n'aurez jamais sur Mars, quelle que soit la manière dont vous la terraformez.
Moi, mon opinion, c'est que pour réussir à terraformer Mars, il faut réussir à faire en sorte que Mars soit deux fois plus grosse. Et je ne sais pas comment on va faire.
Puisque pourquoi ? Pour retenir l'atmosphère, c'est ça, c'est...
Justement, ce que les sondes nous apprennent sur l'histoire de Mars actuelle, c'est que Mars est deux fois plus petite que la Terre. On voit qu'elle avait un champ magnétique qui la protégeait au départ et qui a duré pendant le premier milliard d'années, mais qui s'est arrêté et qui ensuite donc, a disparu. Sur Terre, on est protégé par un champ magnétique. L'atmosphère de la Terre est protégée par un champ magnétique. Donc ça voudrait dire rallumer le champ magnétique de Mars. Alors là, il faut faire appel aux auteurs de science-fiction pour trouver une façon de faire. Pour l'instant, ça me paraît compliqué. De manière temporaire, on imagine d'autres solutions, peut-être moins pérennes, comme saupoudrer les calottes polaires avec du charbon pour que la glace blanche devienne sombre et qu'elle absorbe la lumière du soleil et qu'on puisse faire fondre les calottes polaires pour ramener un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais ça ne suffit pas. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour rendre Mars habitable. Donc j'ai besoin de faire un énorme effort d'imagination. Et de toute façon, pour que ça soit durable, suffisamment durable pour qu'une espèce évolue, y vive et évolue, pour moi, ça reste du domaine de la science-fiction pure.
Bien, peut-être avez-vous des questions. On va voir s'il y a des micros qui circulent. Levez la main si vous avez des questions ou des remarques ou des impressions sur la réalité virtuelle que vous avez vue.
Bonjour. C'était concernant le début de la conférence, concernant particulièrement les rovers qui avaient été à savoir s'il y avait des rovers qui allaient être récemment posés sur des astres et des planètes de notre système solaire. J'avais entendu dire qu'il y avait une firme internationale, une multinationale automobile, qui avait lancé le projet de faire un concours de lancement de rovers sur la Lune. Je crois que c'est Honda ou Toyota. J'ai vu ça sur le site de la NASA. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais apparemment, l'une de ces deux firmes aurait eu le projet d'installer un concours qui permettrait à plusieurs instances d'envoyer... Moi, des rovers sur la Lune.
J'ai entendu parler du Google X Prize, qui est un prix fait par Google, avec éventuellement la possibilité, il me semble, de mettre en place une petite mission lunaire pour les heureux gagnants, et avec de la réalité virtuelle d'ailleurs dans le paysage, c'est-à-dire la possibilité, c'est une petite société qui parlait de faire ça, mettre sur un rover un système qui permettrait, depuis la Terre, avec un casque de réalité virtuelle, de voir ce que voit le rover. Faut savoir qu'une mission, poser un rover sur une planète, la mission Spirit et Opportunity, c'est un budget qui est de l'ordre de 450 millions de dollars. Donc une société qui est suffisamment riche, ou quelqu'un qui est suffisamment riche, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, et qui a envie de se payer un rover sur Mars, c'est possible. Je crois que la fortune de Bill Gates lui permettrait de se payer plusieurs rovers martiens. Donc c'est possible. Il y a la société SpaceX, une société privée aux États-Unis qui maintenant s'est mise sur le marché des lanceurs, des fusées, et qui commence à faire des choses assez impressionnantes. C'est possible aussi. Ça peut créer une émulation, on ne sait jamais. Ça peut faire en sorte qu'on ait plus de missions spatiales qui se mettent en branle.
Une autre question ? Alors, je crois que SpaceX, c'est Elon Musk, ouais, et c'est lui aussi qui a proposé de faire de la terraformation en lançant des bombes nucléaires. Il est un peu fou, non ?
Alors ça, j'ai pas entendu la terraformation. Je sais pas si vous avez plus d'infos que moi. Il a plein d'idées assez effectivement farfelues. La terraformation de Mars, il me semble pas que ce soit lui. Il y a une société hollandaise qui a lancé une idée comme quoi on pourrait puisque la NASA, en disant la NASA, bon, c'est un peu, voilà, ils n'arrivent pas à envoyer quelqu'un sur Mars. Nous, on a une super idée, c'est qu'on va faire un aller simple, puisque ce qui est compliqué, c'est de faire un aller-retour, envoyer un homme et surtout le ramener vivant sur Terre. Donc nous, on propose de faire un aller simple, comme ça, on a résolu le problème de ramener l'astronaute, ce que la NASA n'arrive pas à faire. Et cette société proposait de financer l'aller simple et le développement de cette mission avec la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on allait filmer les candidats astronautes pendant leur préparation et puis pendant leur mort progressive sur Mars, pendant le voyage et sur Mars. Et ils ont mis un plan un plan de bataille en disant on va poser un premier habitat en 2022 qui fera 2 tonnes. Et puis, vous savez peut-être qu'on peut lancer une mission vers Mars tous les 2 ans. Et donc, 2 ans plus tard, on posera l'habitat suivant pour compléter et augmenter l'habitacle. Puis 2 ans plus tard, encore un autre de 2 tonnes. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas poser une mission avec une précision mieux que 12 kilomètres. Ça veut dire que vous allez poser votre cuisine là, et puis 2 ans plus tard, vous avez les toilettes qui vont arriver, mais qui seront à 10 kilomètres de la première base. Il y avait plein de choses dans leur projet qui tenaient pas debout, notamment la première habitat faisait 2,5 tonnes. Là, Curiosity, on a eu énormément de mal à le poser, et il fait 850 kilos. Donc, il faut poser un truc 3 fois plus lourd en 2022. Ça ne tenait pas la route. Pourtant, on rejoint peut-être le début de la conférence, il y a un énorme engouement pour l'exploration de Mars, et il y a plein de gens qui ont dit « Mais c'est génial, cette idée, je veux en faire partie. » Et ils ont récolté beaucoup d'argent avec leur concept, mais ça s'est cassé la figure il y a quelques mois. Ça ne tenait pas la route. Bon. On est un peu dans c'est pas la terraformation à coup de bombe nucléaire, c'était un projet un peu fou de quelqu'un qui disait allez, on va quand même essayer d'envoyer des hommes, mais c'était pas un projet sérieux.
Je voudrais poser une question à mes confrères scientifiques. En fait, pour vous, la conquête spatiale qui mobilise beaucoup d'argent et d'énergie, elle a quel but dans le fond ? Est-ce que c'est pour parfaire une connaissance de l'univers ? Est-ce que c'est pour vraiment dans l'idée d'implanter quelque chose sur notre monde ? C'est quoi votre but ou la simple curiosité, votre but ultime par rapport à cette exploration spatiale?
Alors, merci pour la question. Ma première réponse va être que, en fait, je suis un grand lecteur de science-fiction et je suis hyper heureux tous les jours de contribuer à mon niveau, à cette époque, à quelque chose qui sera peut-être ce qui est aujourd'hui le domaine de la science-fiction, mais en tout cas, à notre niveau aujourd'hui, on participe à quelque chose qui va devenir du réel et qu'aujourd'hui de l'imaginaire. Ça, moi, tous les jours, j'y pense. C'est pas ce qui fait qu'une mission comme JUICE, puisque c'est celle que je connais mieux, ou qu'une mission martienne va être sélectionnée. Je peux vous le dire, les décideurs, c'est pas ce qu'ils attendent. Notre métier, c'est aussi, parce qu'on est curieux, d'apporter des connaissances à l'espèce humaine, et c'est ce qui va faire le choix d'une mission. Une mission à l'Agence spatiale européenne ou à la NASA est d'abord drivée, non pas par des considérations budgétaires ou des problèmes comme ça, mais réellement par des questions scientifiques, un questionnement scientifique, et qu'est-ce qu'on va réellement ramener qui va faire avancer la connaissance humaine. Le spatial fonctionne avec ça. Derrière, ça c'est mon idéal, hein, derrière il y a tout le reste. On n'a pas le temps d'en parler, c'est comme ailleurs, tout n'est pas beau, mais... Ouais, personnellement, je parle en mon nom, on va voir ce que mes collègues disent, mais la première motivation et ce qui nous pousse, c'est qu'on est curieux et on va chercher des nouvelles connaissances dans un monde inexploré, dans des endroits totalement inconnus, et on fait avancer petit à petit la connaissance humaine.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je suis
c'est le même moteur.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est dans une dynamique qui est... on pourrait se demander à quoi ça sert d'aller au sommet de l'Everest. C'est presque le même questionnement. À quoi ça sert d'aller au pôle Nord ? On sait qu'on risque sa vie pour aller là-bas ou au fond des océans. Là, on est dans la prochaine limite, la prochaine conquête. On a fait la Lune, on aimerait bien le refaire. Il y a Mars derrière. Donc, il y a juste cette... ne serait-ce que ce moteur de... explorer les mondes inexplorés. Tiens, c'est Star Trek, ça, non ? Aller sur cette dimension d'exploration. Au-delà de ça, je trouve, comme l'a dit Olivier, on a aussi peut-être un rôle à jouer dans fournir une part de rêve. Je conçois ça comme le budget d'un film comme Avatar, c'est à peu près le budget d'un rover martien. Donc, on peut contribuer aussi à fournir du rêve. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur Philae. J'étais étonné le jour où Philae s'est posé sur la comète. J'ai regardé en replay après le 20h. Pendant un quart d'heure, on a eu David Pujadas qui nous a parlé de l'aventure de Philae. La moitié du 20h. Ça n'arrive jamais en planétologie, c'est énorme. Et je trouvais que dans le contexte actuel, cette part de rêve, d'accomplissement, bah, ça valait bien les 20 centimes qu'on a tous payés. Je vous annonce que vous avez tous payé 20 centimes pendant 10 ans pour financer la mission Rosetta. Donc, moi, j'aime bien cet aspect... on investit dans quelque chose qui nous fait rêver. Après, pour terminer, pour être rapide, on pousse tellement les limites pour aller sur ces mondes hostiles qu'on est aussi amené à développer des techniques nouvelles spécialement pour ça. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, la mémoire flash, vous savez, ce qu'on a tous dans nos téléphones ou dans nos clés USB, bah, première utilisation de la mémoire flash, c'était à bord de la sonde Cassini, qui est en ce moment autour de Saturne. J'ai appris ça l'année dernière. J'étais étonné. Et effectivement, on ne le sait pas forcément, mais on a des outils, des choses de tous les jours qui, pour certains, ont été inventées pour les besoins du spatial.
Mais ça, c'est peut-être une conséquence. Ce n'est pas le moteur. Ce n'est pas, ce qui nous fait aller là-haut.
C'est plus le principe de la recherche fondamentale. C'est-à-dire, on va aller là-haut. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être. On a quelques idées. Mais on aura des retours, finalement, de notre voyage. On ne peut pas dire forcément à l'avance, bah oui, si je vais dans l'espace, je vais inventer la poêle Tefal. On ne pouvait pas le dire au départ. Pour autant, le revêtement des poêles Tefal a été développé pour les besoins de l'espace, puisqu'on ne pouvait pas avoir des lubrifiants dans le vide spatial. Il a fallu inventer de nouveaux composants. Donc, il y a quand même un aller-retour, mais effectivement, on ne sait pas forcément à l'avance ce que l'on va gagner dans cet investissement qui est à la fois pour cette part de rêve, mais pour aussi... des développements technologiques.
En tout cas, d'un point de vue purement poétique, je dirais, la fascination de la découverte d'un nouveau monde, ce déplacement que vous permettez dans votre machine de réalité virtuelle au-dessus de la surface d'une autre planète, ça agit complètement. On est envoûté, on découvre un autre paysage, un paysage qu'on ne trouvera jamais sur la Terre. Et je ne sais pas si c'est psychologiquement qu'on se met dans un état d'émerveillement, finalement. Donc, merci pour ça. Et merci pour cette table ronde.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.